avons la chance d'avoir une spécialiste de Jack London dans cette émission.
C'est génial. London, Londres, mais surtout, ouais, si on connaît l'œuvre de Jack London comme moi et celle du général de Gaulle, on peut se dire qu'à deux, ils auraient pu écrire L'appel de la forêt le 18 juin.
Oh, eh oui,
oh, le niveau. Rien avec Cro-Blanc, en revanche.
Lara Dupont de Molonan, ça.
Non. Nous sommes le 25 juillet 1897 en Californie.
Non, bah non.
Et si, mes amis, fallait me consulter avant.
Bah là,
pardon,
c'est pas mal,
mais
c'est
si. Un homme monte sur l'Umatilla. Alors, non, Alex, ce n'est pas le prénom d'une escorte ukrainienne. Non. C'est le nom d'un bateau. Et celui qui monte dessus, c'est votre meilleur ami, Alex. C'est Jack London, bien sûr. Il part dans une région qu'on appelle le Klondike, qui est située entre l'Alaska et le Canada, pour accompagner les chercheurs d'or. Et on estime aujourd'hui que la ruée vers l'or, qui n'aura jamais duré pas plus de 2 ans, a attiré 1 million de personnes. Et la plupart n'en sont parvenus. Notez que les Indiens non plus, hein, qui vivaient là paisiblement et qui ont vu arriver des hordes de gars gelés, affamés et sans scrupules. Alors Jack London, lui, ne ramènera pas d'or, mais il ramènera 2 choses. 1, le scorbut. On ramène ce qu'on peut. Et 2, une pépite inestimable qui s'appelle l'inspiration. À son retour, il écrit des petits textes extraordinaires et quand il les enverra aux éditeurs, il essuiera 266 refus. La win, madame l'édition. Finalement, ces textes seront édités, succès foudroyant, et notamment un recueil de nouvelles qui s'appelle Les Enfants du Froid, dont je vous parle aujourd'hui, que les éditions Phébus ont eu la très bonne idée de rééditer. Et c'est unique ce qu'il fait, Jack London, dans ses 10 nouvelles, parce qu'il écrit, je cite, « du point de vue indien, comme à travers les yeux des Indiens. Il ne s'est intéressé qu'aux Indiens du Grand Nord. Il y a la tribu de l'ours, la tribu des poissons blancs, la tribu des insatiables. Il y a leur savoir, leur vaillance et leurs limites aussi. London se sert de ce qu'il voit, il restitue une réalité, c'est le Émile Zola du Grand Froid. On est dans un naturalisme polaire. » Chaque nouvelle répond à une question. Que se passe-t-il quand un Indien est parti rejoindre les Blancs, a fait fortune et qu'il revient dans sa tribu? À quoi ressemble la seconde où il accoste sur la rive qu'il avait quittée des années auparavant? Et quand c'est un Blanc qui déboule et qui veut s'intégrer et qui apprend la langue, comment décrire le chaos que malgré tout il génère? Et sur quoi, sur quelle valeur repose un couple d'Indiens? Alors je vous donne un début de réponse. L'égalité homme-femme est à ce moment-là là une notion aussi banale qu'un baobab en Arctique, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, en fait. Et puis, dans ce texte, il y a une nouvelle, pour moi la plus forte parmi les 10, qui s'appelle La loi de la vie, et qui raconte en quelques pages un vieil Indien laissé sur le côté, car l'heure est venue de mourir. Il est aveugle, il entend les traîneaux s'éloigner, et le pas des loups qui progressivement l'encerclent. Et il dit cette chose, il dit « c'est bien ». Je suis une feuille de l'an passé, presque détachée de sa tige. Au premier vent qui soufflera, je vais tomber. Mes yeux ne montrent plus à mes pieds leur chemin, et mes pieds sont lourds, et je suis fatiguée. C'est bien. Qui aurait cru qu'un renoncement puisse être aussi simple et aussi beau? Eh ben, Jack, always. Je vous donne les références. Les Enfants du Froid de Jack London sont reparus en libretto aux éditions Phébus.
Merci, Clara Dupont-Mono.